antique à l'éveil, Bonos au Bodhi. Ou encore les vies et morts sont identiques au nirvana, Shoji Soku Nehan. Mais pour que les passions soient identiques à l'éveil, ou pour que les souffrances de la vie et la mort soient identiques à l'éveil, il y a le mot Soku, hein, Bono Soku Bodhi, Shoji Soku Nehan. Et Nichiren dira que la copule Soku, qui fait que l'un devient l'autre, cette copule Soku, c'est Nam-myoho-renge-kyo. S'il n'y a pas le Nam-myoho-renge-kyo, les troubles restent les troubles, et les souffrances des vies et des morts restent les souffrances des vies et des morts. C'est juste l'utilisation de la copule Soku, donc Nam-myoho-renge-kyo, qui fait que l'un devient l'autre. Et il est dit dans l'enseignement oral, c'est en brûlant les bûches des illusions que le feu de la sagesse de l'éveil apparaît. Dans l'enseignement du Bouddha Shakyamuni, les passions étaient considérées comme le drame empêchant l'éveil. Donc forcément, il fallait brûler les passions, renaître encore, de façon à éliminer toutes les passions, devenir un saint, en fait, quelque part. Seulement dans l'enseignement définitif, on dit que le feu a deux vertus, la vertu de brûler et la vertu d'éclairer. Dans le bouddhisme ancien, la vertu du feu, c'était de brûler, on brûlait les passions. Dans le bouddhisme définitif, la vertu du feu est celle d'éclairer. C'est-à-dire que grâce au trouble, grâce à la bûche de nos troubles, cela développe, le feu développe une sagesse, une lumière, qui nous permet d'atteindre l'éveil grâce au trouble. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas s'extraire d'une situation d'humain, et donc par là même, engager dans le monde des désirs les plus divers, des troubles de toutes sortes, l'orgueil, tout ce que vous voulez. Mais au lieu de brûler comme dans le passé, le feu éclaire. Donc notre propre sagesse naît des troubles. Et on peut diriger notre existence, à ce moment-là, par le biais de cette lumière. Et aussi, Shakyamuni dit, je demeure ici constamment. Enfin, il parle du nirvana, il rentre dans le nirvana, mais il dit, je demeure ici constamment. Mais grâce à la force de mes pouvoirs divins, je fais en sorte que les êtres doctrine ou de conception erronée, bien que je sois proche, ne me voient plus. Encore une fois, parce que le temps n'existe pas en soi. Hein? Et l'idée de pouvoir divin sont des pouvoirs qui dépassent le cadre usuel de ce que les humains considèrent comme étant normal. Le souverain de la loi dit à ce propos que ces pouvoirs divins dont il est fait question, là, sont des pouvoirs divins partiels, c'est-à-dire dépendent des causes et des conditions, c'est-à-dire que c'est ce qui apparaît en tant qu'effet. Tout ce qui apparaît en tant qu'effet, c'est l'expression des pouvoirs divins des êtres à leur insu. Donc Nichiren dira, ce qu'on appelle pouvoir divin est ce que nous, les êtres, manifestons en chaque acte à tout moment. La naissance, la pérennité, les transformations et l'extinction sont toute la substance des pouvoirs transcendantaux, substantiels des 3000 phénomènes. Autrement dit, aussi bien tout ce qui apparaît, périclite ou reste tel et disparaît, sont les pouvoirs divins des êtres. C'est-à-dire que le fait de perdre sa mère jeune, ou de, pour une mère, de voir son enfant mourir devant elle, ou de voir apparaître des drames, pas tout ce qui est apparition, disparition ou maintien, tout cela c'est divin dans la mesure où ça permet à chaque individu de vivre ce qu'il est. Il n'y a pas de morale dessus, il n'y a pas de jugement normatif moral. L'ensemble du fourmillement des choses qui naissent et meurent tout le temps, tout le temps, tout le temps, à travers la naissance, la mort, la maladie, la vieillesse, la colère, la peur, le fils, tout ce que vous voulez, tous les troubles, hein, tout ce qui apparaît et disparaît comme ça, c'est l'expression du pouvoir divin de la personne qui ne fait que vivre sa réalité, à son insu. Alors que le Bouddha utilise l'infinité des phénomènes pour propager la loi ou inscrire le Wangzong, les individus utilisent l'infinité des phénomènes aussi, mais à leur insu, ils ne verront que leur propre vie. Comme tout est en chambardement tout le temps à chaque instant, l'humain ne voit pas. Il a l'impression qu'il a souffert de ceci, qu'il a souffert de cela, que si son père avait vécu 5 ans de plus, il aurait été plus heureux, si son enfant n'était pas mort, il aurait été ceci. Les gens ont des impressions sur les choses qui naissent et meurent, ce ne sont que les effets de ses propres pouvoirs à son insu. C'est drôle. Pour moi, ça ne fait rien. Aussi. Aussi, on trouve, hein, voilà, dans le Sutra de l'éveil parfait, il est dit, « Depuis l'infini des temps, tous les êtres entretiennent des pensées fictives et s'agrippent à l'existence d'un moi, d'une personne, d'un être animé ou d'une durée de vie. Les êtres considèrent ces quatre perceptions distordues comme l'essence réelle de leur moi. La personne, moi, un être animé, la durée de ma vie. Alors qu'en réalité, tout apparaît en tant que effet. Alors j'entends bien qu'il y a un moi. En tant que fait sensible. En tant que, lieu unique de la convergence de la sensibilité et des faits qui s'y rapportent. En cela, il y a un moi. Qui est notre personnalité. Donc on ne peut pas se dissocier. On ne peut pas se défaire de cette personnalité. Donc c'est un point sensible, un point de référence sensible. Pour autant, s'appuyer sur ce moi comme sur quelque chose de réel et durable, c'est faux. Parce qu'il est entièrement circonstanciel. C'est toujours un...
C'est
mais c'est le point de convergence. Mais s'appuyer dessus en disant comme Hegel, je suis je, ich bin ich, par exemple, c'est vraiment la plus hystérique. Parce que ça ne dépend pas du vouloir. Du pouvoir en tant que volonté. Comme ce sont les effets, donc, c'est le passé infini qui apparaît en tant que effet à chaque instant.
Donc on pense qu'il fait.
Ah oui, bien sûr, on fait
ça. Pas choix.
Cette convergence, elle change.
Ah, mais ça change, bien sûr.
C'est pas les mêmes convergences,
alors là, bien entendu.
Comme dirait Nietzsche, évitez-je.
Comme dirait Nietzsche, évitez-je.
Évitez-je.
Donc, c'est là que ça devient intéressant. Dans la fin du lotus, qu'on récite matin et soir, qui commence par Maï, Jésus-Zénène, il y a d'autres choses, il y a d'autres choses, machin. Shakyamuni dit, je me fais toujours cette réflexion. Comment puis-je faire en sorte que les êtres pénètrent dans la voie inégalable et réalisent rapidement le corps du Bouddha? Tous, nous sommes préoccupés par des choses. Préoccupé signifie ce qui occupe avant. Hein, donc c'est la propension de la personne. Quand votre fille est malade, bien qu'il y ait d'autres aspects de la réalité, votre propension majeure va être toujours la fille malade. Je vous manquais de plumes, bon, il y a des gens pour qui la préoccupation majeure, ou toute leur vie, c'est bouffer. Ou gagner de l'argent, ou s'envoyer en l'air, ou être le président de la République, il y a du bon. Donc il y a des préoccupations comme ça, qui sont propres à chacun. Pour ce qui est du Bouddha, sa préoccupation, c'est-à-dire celle qui est l'axe sensible principal tendu vers quelque chose, cette préoccupation pour le Bouddha, c'est comment faire pour que ces abrutis d'humains puissent enfin atteindre l'éveil. Et pour nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de notre pratique, notre préoccupation, ce à quoi l'on se réfère tout le temps en termes d'inquiétude, en termes de « je cherche comment faire, je cherche quoi faire, je cherche comment y arriver », notre préoccupation aussi à nous, principale, va devenir comment faire pour que ces abrutis d'humains finissent par comprendre ce qu'ils devraient pratiquer matin et soir. Dans la quatrième silencieuse, la seconde partie, il est dit « pour que je réalise au présent et à l'avenir mon grand vœu ». Au présent et à l'avenir, ça veut dire que la préoccupation, c'est le présent. Cette tension dans le sens d'amener les êtres à l'éveil, eh bien, ça, c'est le présent, et ça couvre l'avenir infini. Il n'y a que cela qui soit important. Le passé, on ne le domine pas. Le passé infini, on ne sait pas ce qu'il en est. On ne voit apparaître que les effets. Par contre, en arriver maintenant, en tant qu'humain, à faire apparaître en nous cette préoccupation qui va devenir l'axe sur lequel toutes les pensées annexes vont pouvoir être dirigées, vont pouvoir se greffer. En arriver à cela, c'est en fait notre présent et notre futur infini devient la qualité même de la préoccupation.
Quand on pratique, on n'intervient pas du tout sur le passé.
On peut pas voir comme ça, on peut pas voir comme ça, s'il n'y a pas de passé. On est permanent. Mais c'est pas dans le temps. C'est en dehors de ce qu'on appelle le temps.
Quand on parle d'avenir, mais j'arrive pas à trouver à comprendre.
Bah, c'est, dès que j'ai bu un peu d'alcool. Et aussi. Le bouddhisme enseigne ainsi le principe correct des causes, conditions et des effets et rétributions au cours des trois phases, selon lequel la mort donne elle-même naissance à la vie suivante. Les autres religions ne saisissent pas ce principe. Les diverses philosophies occidentales ou les universités explorent des philosophies prétentieuses de la vie sans toutefois pouvoir énoncer clairement le sens de l'existence. Pourtant, existe le lien de cause à effet liant le passé au présent et le présent au futur. Notre vie et notre mort au cours de cette vie, ainsi que notre une pensée au moment de la mort, constituent donc la cause. La vie suivante est engendrée par les causes et les conditions. Autrement dit, la une pensée à chaque instant, qui est la préoccupation majeure, c'est ça qui va être la cause, au moment de la mort, de la qualité de l'existence. Voyez-vous, c'est ce à quoi on se réfère tout le temps en termes de préoccupation de notre vivant maintenant, ce jusqu'au moment de la mort, cette préoccupation qui va devenir la qualité du futur, de notre existence.
La qualité du présent.
Oui, mais c'est le présent, on va mourir. Donc c'est cette préoccupation momentanée qui va devenir la qualité du futur de notre existence. Si on meurt préoccupé, angoissé à l'idée de la mort, c'est une forme de vie particulière. Si on est préoccupé par le fait de laisser sa fortune, c'est un autre type de vie qui s'amorce. Si on est préoccupé par ceci ou par cela, c'est un autre type de vie, de jour qui s'amorce, voyez-vous. Donc la qualité de la préoccupation de la vie à chaque instant, jusqu'au moment de la mort, montre le futur infini. Autre chose. Il est dit, grâce aux œuvres et vertus inconcevables de Renge, donc la cause et l'effet simultanés, de la loi merveilleuse, simultanément donc cause et effet, l'illusion et l'éveil sont parfaitement simultanés. Ainsi notre vie impure devient-elle pure. Comprenez bien que l'illusion est instantanée, l'éveil est instantané, autrement dit, il ne peut pas y avoir de poids de l'illusion à traîner un certain temps. Comme l'illusion est instantanée, comme l'éveil est instantané, on peut purifier notre vie à l'instant en pratiquant.
C'est pas entraînant. C'est cette notion d'avenir.
On ne peut pas s'échapper au fait d'être.
Quand tu
il y a toujours existence. Donc on peut en traiter en termes de passé infiniment lointain et de futur immensément lointain, c'est pareil. On peut pas, il n'y a pas de temps. Nous ne sommes pas dans le temps. Aristote dit, le temps est le nombre du mouvement. Belle figure, on a fait frémir plusieurs. Mais dire que le temps est le nombre du mouvement, ceci est mis en temps pour se déplacer, c'est hautement con, ça induit quelque chose de durable, qu'on peut mesurer un certain temps. Or c'est faux, tout est instantané.
Tout change tout le temps.
Voilà. Mais il y a existence permanente. Donc on peut dire que ce que je suis maintenant vient du passé infini, ce que je suis maintenant produit du futur infini, mais en réalité il n'y a pas.
C'est juste pour expliquer.
Bien sûr, parce que les humains.
C'est le Bouddha qui se met à la portée des humains.
Oui, bien sûr, parce que les humains sont complètement cons parce que tu veux bien travailler avec ce qu'on peut sous la main. Quoi. Donc il est dit, l'esprit et la vie momentanée emplissent le monde des phénomènes. C'est ça qu'il faut garder en mémoire. Aussi, on va venir à un point. Vous avez encore le temps là, c'est bon? Il est dit, la nature de l'esprit ne naît ni ne disparaît. C'est clair. Il est dit aussi, la nature de l'esprit demeure constamment au-delà des pensées. C'est pour cela qu'on la qualifie d'immuable. La nature de l'esprit n'a pas de point de départ. Par contre, cette nature de l'esprit est toujours alimentée par des pensées momentanées qui succèdent, et qui sont les pensées des six fois, l'orgueil, la vérité, la colère, tout ça, machin. Mais l'esprit, lui, ne peut ni apparaître, ni disparaître. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il est pollué par des conneries. Donc c'est pour ça qu'on pense.
Alors, oui. Quand on parle justement d'une pensée parmi, hein, on dit effectivement, on ne peut avoir qu'une seule pensée qui occupe l'instant, et la qualité de cette pensée, donc, est variable, il y a une infinité de qualité de pensée.
Ouais.
Qui peut se produire en seul instant. Mais est-ce qu'on a quelque différence, fait-on, entre l'esprit et la pensée?
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas.
Non, il n'y en a pas. Non. Nagarjuna dit qu'il convient de considérer les sons, ce qu'on entend, en soi, les pensées qu'on a. Comme ceci, je ne passe pas là, lui, c'est un con. Je le mute. Toutes les pensées qu'on a. Bon. Nagarjuna dit, considérer les sons comme un écho et les activités du corps comme un reflet. Les pensées qui apparaissent dans l'esprit sont un écho, l'écho de ce qu'on a toujours été. Et le corps, c'est un reflet momentané. Comme disait Shakyamuni, c'est comme une cascade, le corps, ou un éclair. C'est le reflet momentané de ce que nous avons aussi toujours été. Et Garjana dit aussi, le son, donc, ce qu'on entend, le son qui va et qui vient manifeste le langage, parce qu'on peut verbaliser. Mais il n'y a pas là d'agent. On n'est pas l'auteur de nos pensées. Elles surgissent. Shakyamuni disait, des événements se produisent dans le monde, mais il n'y a pas d'acteur. Cela s'impose. C'est un effet. Le corps est un effet, la pensée est l'effet de l'effet. Jamais on peut sortir de sa souffrance avec la pensée.
Et dans la mesure où on reste dans le cycle.
Jusqu'au neuvième. Jusqu'à l'état de Bodhisattva, niveau pas se fier trop à ce qu'on voit. Aussi, juste en un mot. On entend parler d'êtres qui perdent la mémoire avec Alzheimer. Et pour que ce soit vrai, il faudrait qu'il y ait un être durable, avec une mémoire durable. Or, ni l'un ni l'autre n'existe. La mémoire, c'est quoi? La pensée, c'est quoi? C'est le surgissement d'une pensée momentanée, que l'on va dire être soit de l'imaginaire, soit être de la mémoire, soit être de ce qu'on a vu. On mettra des mots sur la pensée qui apparaît. On dira, ça c'est la mémoire, à moi. Ça c'est ce que j'imagine, ça c'est ce que je veux, ça c'est ce que j'ai envie de faire. Bon. La pensée, on pourra dire qu'elle a une tournure, mais c'est faux. La pensée naît à chaque instant. Autrement dit, plutôt que de parler de mémoire que l'on pourrait perdre ou gagner, il faut plutôt considérer que ce d'où provient la pensée momentanée, et donc la qualité de la pensée, c'est un champ dont surgissent des choses à chaque instant. Selon la qualité ou l'étendue de ce champ, il y a plus ou moins de choses bonnes ou mauvaises qui apparaissent dans la pensée. Et ça, c'est tout le temps. Par exemple, Nichiren...
De souffrance,
oui, bien sûr, oui, c'est moral, c'est un terme de souffrance, de qualité. Nichiren, il est à Minobu, à la fin de sa vie. Il dit, traduit de mémoire, il dit, en tant qu'humain, je ne peux pas savoir si j'étais, à la cérémonie du lotus, à l'époque de Shakyamuni, il y a 2000 et quelques années. Pour autant, si je regarde ce que j'accomplis actuellement, en tant qu'envoyé du Bouddha, il est nécessaire, il est incontestable que j'ai dû être à la cérémonie dans les airs à l'époque de Shakyamuni. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence entre le passé, le présent et le futur. C'est ça la richesse de la mémoire. C'est le champ d'où surgit à chaque instant une qualité ou une non-qualité. Par exemple, Ananda et Shakyamuni dit à Ananda, dans le passé infiniment lointain, il y avait un Bouddha, il y avait un disciple. Ils ont fait ceci, cela, machin, bidule. Et il dit à Ananda, le Bouddha c'était moi à cette époque-là, et le disciple c'était toi. Et Ananda dit, ah, je m'en souviens comme si c'était hier ou demain. Ou demain.
Ils font tout pour nous perturber.
Vous voyez, c'est beau. Donc la mémoire, ou ce que vous voulez, l'imagination, ou le rêve, quand vous dormez, vous pensez. Si on vous réveille en plein sommeil, vous allez voir que vous pensiez à quelque chose. Ah oui, forcément, on peut le voir. Donc toujours, c'est une qualité, la pensée. Mais la qualité ne dépend que de l'acte physique, c'est-à-dire namirolangekyo. Bien sûr. Et on va terminer, parce que là, je sens que vous êtes au bord de la rupture, au bord de l'effondrement. Ce qui apparaît dans ces Nichiren, ce qui apparaît lorsqu'on vénère le Myoho-Renge-Kyo de son propre cœur comme le vénéré fondamental, lorsqu'on appelle à l'aide de Nam-myoho-renge-kyo la nature de Bouddha de notre cœur, est ce qu'on nomme le Bouddha. Lorsqu'on l'appelle avec la loi merveilleuse, la nature du Bouddha de notre corps, ainsi appelée, apparaît immanquablement. Leur nature de Bouddha ainsi appelée, Bonten et Taishaku nous protègent. Leur nature de Bouddha ainsi appelée, les Bouddhas et les Bodhisattvas se réjouissent. C'est vrai. Le fait de réciter Nam-myoho-renge-kyo appelle notre nature de Bouddha, et autour de nous, les divinités se réjouissent, et les Bouddhas et les Bodhisattvas se réjouissent également. Rappelez-vous que Ziyi disait, le corps des Bodhisattvas emplit l'espace. Parce qu'il le voyait. Ce qui amène nos scientifiques actuels à dire que 90% de la matière n'est pas visible, évidemment. C'est une qualité de perception.
On fait apparaître l'éveil, en fait, dans, en nous et partout.
Et bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, bien sûr, bien sûr. Donc il y a réjouissance. Parce qu'on ne peut pas voir en tant qu'humain. À un moment, on peut voir. Mais avant, on ne peut pas. Mais à un moment, on peut. Donc je terminerai là-dessus. L'homme qui a la foi, ou la femme, qui à la fois dans le sutra du lotus est semblable à l'hiver. L'hiver devient immanquablement le printemps. Depuis le passé, on n'a ni entendu ni vu l'hiver se transformer en automne. On n'a jamais entendu dire que l'homme qui a foi dans le sutra du lotus devienne un être ordinaire. Il est enseigné dans les phrases du sutra, aucun de ceux qui entendent la loi ne peut pas devenir Bouddha. Et pourquoi on a commencé en disant que l'être humain qui récite Daimoku est semblable à l'hiver? Parce que, du fait de sa pratique, il va être amené au fur et à mesure à endurer une rigueur quasi hivernale, qui est la suivante, avoir la patience de supporter tous les êtres et les amener doucement à l'éveil. Ça, c'est l'hiver. Ça, c'est l'hiver. Mesdames et messieurs, à la rose, et à plus. On n'a pas ce que de temps, hein. On n'a pas ce que de temps. C'était clair?
Ouais, ça donne envie de continuer après. Ah, c'est vrai, ça donne pas envie d'arrêter. Ouais, ça donne pas envie d'arrêter.
Ah oui, encore, à propos de la mémoire, tiens, mais Brigitte va le dire, c'est la histoire, maintenant. Tu peux le lire, Brigitte, ce sera la fin. Donc.
Moi, j'ai vu le gros. C'est quoi? Quoi faire, en fait?
Ça. Si, peux-tu? Attends, on a fini là. Juste la fin, une dernière phrase. Hein.
Traité sur la protection de la nation. Même à l'instant de sa mort, ça.
Oui, oui.
Même à l'instant de sa mort, s'il n'invoque pas le Bouddha dans son cœur, ne récite le sutra, ni ne pénètre dans le lieu de la foi. Celui qui croit au sutra du lotus reçoit la vertu d'éclairer le monde des phénomènes sans y penser, de réciter tous les sutras sans émettre de son, et d'embrasser les 8 rouleaux du sutra du lotus sans les prendre.
Ça, la mémoire la plus riche.
J'ai pas bien compris.
Je répète. Même à l'instant de sa mort, s'il n'invoque pas le Bouddha dans son cœur, ne récite pas le sutra, ni ne pénètre dans le lieu de la voie, celui qui croit au sutra du lotus reçoit la vertu d'éclairer le monde des phénomènes sans y penser, de réciter tous les sutras sans émettre de son, et d'embrasser les 8 rouleaux du lotus sans les prendre. C'est ça la qualité. La qualité de l'être.
Le fait de pratiquer...
Fait que, au moment de la mort,
d'accord.
Comme tu as pratiqué, d'accord. Toute ta vie est entourée par des richesses.
D'accord.
Qui ne se perdent pas, qui ne sont jamais perdus. C'est ta propre vie.
Et quand tu es avec. Dit par rapport à la mort, c'est que c'est
tu es avec.
À la fin de la mort qu'on peut.
Tu es avec. Pardon.
Non, tu es avec.
Il n'a pas vu encore.
Quand Nicolas dit à la fin de votre mort que vous pouvez en fait finalement.
Oui.
Comment dire, mesurer en fait la profondeur de
oui, notre oui, croyance, oui, oui,
etc.
Oui,
donc oui. Ça annule un peu ce
que... Non, c'est sûr que... Oui, mais c'est, non, tu pratiques tout le temps. Puis il se fait que tu as un accident de voiture et tu meurs, ou que tu n'as pas eu le temps de pratiquer, tu n'as pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Tu as fait gongyo le matin, comme Hervé Delalieu, il fait gongyo, il sort le matin pour aller bosser, il arrive sur le quai de métro, il s'effondre, il est mort. Ah ouais, ça arrive, hein.
T'as pas le temps de réagir.
T'as pas le temps de réagir. Pas... Combien même, ça ne ça change rien.
Oui, donc il y a beaucoup de choses de vie, dans le genre égal, c'est vraiment l'instant de la mort,
j'ai
des bains notamment.
Etc. Oui, d'accord, oui. Alors,
en fait, ça soulage un petit peu en disant que finalement, c'est quelque chose qui...
Ta vie est... Comme tu as produit tout le temps, ta vie est entourée.
En fait, on peut pas juger.
Les racines de bien sont partout. Tu peux pas les perdre. Hein.
Okay.
Il est dit dans les sutras de.
Si tu paniques au moment de la mort, par exemple, le fait d'avoir pratiqué.
Voilà.
Je voulais revenir sur un tout à l'heure passé, cette idée de la mémoire. Je pense à l'analogie de bien expliquer le temps, parce que c'est vrai que. La mémoire, c'est le gestionnement de ce dont on rappelait le passé, hein, comme l'imagination. Le futur est toujours dans cet instant présent. Mais au niveau du cerveau, quand on fait des IRM, par exemple, on s'aperçoit que